Nous avons encore une question. Il est écrit dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 16 et au verset 12. La 39e année de son règne, Assa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances, même pendant sa maladie. Il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Je vous demande d'expliquer, s'il vous plaît. Cela semble dire qu'il est incorrect de se tourner vers les médecins. Bien, je n'aurais pas pu le dire moi-même d'une meilleure façon. Vous l'avez dit. Il semble que vous avez répondu à votre propre question. Je dirais premièrement, honnêtement, que personne d'entre nous désire blesser les gens qui sont malades ou infirmes. Nous ne voulons pas les décourager, nous ne voulons pas leur dire qu'ils n'agissent pas bien, qu'ils ne font pas assez pour leur guérison, parce que notre rôle, au contraire, est d'encourager. Mais d'autre part, nous devons dire la vérité. Si je me réfère au Dr. Lake, il était très très clair à son époque concernant ce sujet-là. Peut-être certains d'entre vous savez qu'il y a eu une forte épidémie d'influenza en l'année 1918. Cela a fait beaucoup de ravages en Amérique et ailleurs. Je crois que le nombre total de décès a été de 20 millions. À cette époque, le Dr. Lake avait une église d'environ peut-être 2500 personnes, ce qui était l'une des plus grosses églises de cette région à cette époque. Et à cette époque, il visitait les gens et certaines maisonnées étaient en quarantaine, étaient mises en quarantaine à cause de l'épidémie. Et pour lui, il violait la loi de la quarantaine. Et quand les gens lui demandaient d'aller prier, il entrait dans la maison. Et même, il a été arrêté par les policiers quelques fois à cause de cela. Alexander Dowie a été arrêté plus de 100 fois en une seule année, avec la charge de pratiquer la médecine sans permis. D'ailleurs, pour Dawi, à plusieurs reprises, les policiers sont venus l'arrêter alors qu'il était en train de prêcher. Et cela se produisait tellement souvent que les gens de la congrégation étaient habitués et ils demeuraient là, dans l'église, jusqu'à ce que Dawi revienne quelques heures plus tard. Il revenait et terminait son sermon. Et Dawi était un autre de ceux-là qui disait aux gens « Ne prenez pas de médication et n'allez pas chez les médecins ». Et il est allé même plus loin en disant aux gens qu'ils ne devaient pas manger de porc et d'obéir aux lois de l'Ancien Testament concernant l'alimentation. Il était très strict concernant la consommation d'alcool, au point qu'il n'admettait pas l'utilisation d'alcool à friction, et même c'est l'alcool qui était utilisé à cette époque pour les lampes. Et personnellement, je crois qu'il était beaucoup trop strict, parce que n'oublions pas que le cœur de Dieu est de guérir les gens, de leur faire du bien, et non pas de créer davantage de blessures dans la vie des gens. Mais cet homme était tellement sévère que lorsque sa propre fille a violé ses règlements au sujet de l'alcool pour la lampe, elle avait une lampe dans sa chambre, et elle l'a heurtée accidentellement. Elle avait de très longs cheveux, et le feu a ravagé sa chevelure, et presque tout son corps a été brûlé. Et alors qu'elle était à l'article de la mort, son père est entré et lui a dit « Oui, je vais prier pour toi, mais pas avant que tu te sois repenti et que tu aies reconnu que tu as brisé mon règlement. » Je suis l'une des personnes qui comprennent bien la discipline, mais je n'approuve pas ces comportements-là. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir son propre enfant qui est dans une douleur atroce à cause de brûlures et de conserver une telle attitude. Alors, pour revenir à John G. Lake, nous savons qu'il a violé les lois de quarantaine à cause de l'épidémie. Et il y a eu des moments où Lake était dans une maison, quelqu'un avait appelé les polices, et puis ceux-ci demeuraient à l'extérieur de la maison jusqu'à ce qu'il sorte pour qu'il puisse l'arrêter. Alors, il voyait les policiers, et lui se sauvait par la porte de derrière. Et il allait dans la prochaine maison. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs sermons de Lake, et beaucoup de matériel qui n'a jamais été publié. Et la raison est que je suis allé vers plusieurs éditeurs, et d'ailleurs parmi les plus importants en Amérique, je ne vais pas nommer le nom ici, et la majorité de ces éditeurs-là exigent le droit de modifier le contenu du matériel que je vais leur fournir. Et c'est le cas actuellement pour les livres de John G. Lake qui ont été publiés. Vous pouvez lire au début du livre « compilé par telle personne » et aussi « édité par telle personne ». Donc, l'information a été changée. Et la raison est que les éditeurs ne désirent pas publier les choses telles que John G. Lake les avait prononcées. D'ailleurs, les choses que je vous dis présentement, c'est le matériel qui a été mis de côté par les éditeurs parce que cela n'est pas conforme avec le christianisme actuel que nous vivons. Si nous prenons, par exemple, le cas de Smith Wigglesworth, les gens vont parler de lui en disant « Wow, quel homme extraordinaire !» Ils l'admirent beaucoup. Mais j'ai rencontré et discuté avec une personne qui habite ici au Minnesota et qui a été le chauffeur de Wigglesworth. Son nom est George Stormer. Et j'ai connu cette personne pendant plusieurs années. Et aussi un autre homme du nom de Albert Ebert que j'ai rencontré et qui connaissait personnellement Wigglesworth. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de recherches, non seulement pour les gens qui ont connu John G. Lake, mais pour des gens qui ont connu d'autres grands noms de la guérison. Les proches de Aimé Semple McPherson, Jack Coe, A.A. Allen. Et ce qu'on m'a dit de ces grands personnages, c'est évidemment qu'il y avait beaucoup de similarités dans la manière qu'ils exerçaient le ministère. Mais la majorité avait tous la même opinion au niveau d'aller consulter les médecins. Si vous alliez chez le médecin, vous commettiez un péché. Et c'était la manière d'agir dans l'église de Pentecôte. Et petit à petit, les choses ont changé et on a accepté que les gens aillent chez les médecins. Et maintenant, on nous en sommes au point que les médecins sont devenus la main de Dieu. Alors, vous voyez la différence. Alors, je ne suis pas ici pour être le juge dans tout cela. D'ailleurs, beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que je dois faire par rapport aux médecins. Et même si je vous disais quoi faire, de toute manière, vous n'allez pas faire ce que je vais vous dire, vous allez faire ce que vous désirez. Mais je peux vous dire ce que moi je ferais, mais qu'est-ce que cela va changer dans votre vie? Souvent, beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont essayé de marcher dans les souliers d'un autre, tout en n'ayant pas la même révélation. Je me souviens, alors que j'étais allé dans une église située dans un champ de maïs dans l'Indiana, et il y avait eu là un homme qui avait eu un ministère assez significatif dans les années passées, un homme qui avait enseigné sur la guérison de manière extraordinaire. Et il y avait eu malheureusement beaucoup de controverses parce que dans cette église-là, plusieurs personnes sont décédées, des enfants même sont décédés. Et ce que cela nous apprend, c'est que si vous voulez, si vous choisissez certaines manières d'agir, c'est très bien pour vous. Je n'ai aucun problème avec cela. Et moi, j'ai la foi pour moi-même, et si j'ai besoin d'aide, je vais vous demander pour de l'aide. Mais si votre enfant est malade, vous avez prié, vous avez cru en Dieu, vous avez fait ce que vous deviez faire, mais laissez-moi vous dire que vous pouvez décider pour vous-même lorsque vous avez besoin d'aide. Mais votre enfant n'a pas ce privilège. Jamais votre enfant ou quelqu'un d'autre souffre à cause de votre incapacité de produire un résultat. Vous priez, si cela ne fonctionne pas, allez chercher de l'aide, que vous puissiez être vivant pour vous battre encore une autre journée. Cela signifie que vous avez simplement besoin de grandir, de croître. Et certains gens vont peut-être me reprocher cette attitude. Selon eux, je ne suis pas suffisamment ancré dans la foi. Mais je ne veux pas que personne souffre parce que quelqu'un d'autre essaie de se tenir debout pour se prouver à lui-même qu'il a la foi. Alors, je suis très clair à ce niveau-là. Allez chercher de l'aide si le cas est nécessaire, particulièrement pour les enfants. Ne faites pas souffrir les enfants et n'appliquez pas des règles sur les autres, règles à lesquelles vous ne pouvez même pas vous soumettre. Et même si pour vous cela fonctionne, vous ne devez pas obliger les autres à penser de la manière que vous pensez. Cela se nomme du légalisme. Alors, annoncez l'Évangile, laissez les gens décider et que cela se situe entre eux et Dieu. Je me souviens d'un sermon où le Dr. Lake a dit « Combien d'entre vous sont des consommateurs de pilules? » C'est de cette manière qu'il s'exprimait. Et il a ajouté « C'est bien ce que je croyais parce que personne n'avait levé la main. Évidemment, les consommateurs de pilules ne veulent pas l'avouer. » J'ai même en ma possession une affiche où le Dr. Lake avait écrit que les médecins, les démons et les incrédules viennent constater ce qui se produit dans une rencontre de guérison. Alors, pour lui, il plaçait les médecins au même niveau que les démons et les incrédules. Je ne vais pas jamais appeler quelqu'un un diable parce qu'il est un médecin. D'ailleurs, j'ai une amie en Floride qui est médecin. Elle était plutôt, en fait, chirurgien cardiologue. Et pendant un an, elle est venue à mes sessions d'enseignement, un peu partout où j'allais. J'ai beaucoup discuté avec elle et j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'aider selon tout ce qu'elle me demandait. Alors, elle est retournée en Floride et un an plus tard, elle a fermé sa clinique Elle a gardé sa licence de médecin, mais elle a fermé sa clinique. En fait, elle l'a plutôt transformée en une chambre de guérison pour la prière. Elle avait plus de résultats à prier pour les gens que de pratiquer la médecine comme elle le faisait auparavant. Et je pourrais vous partager 3 ou 4 autres récits semblables. Mais même le Dr. Lake ou les autres disaient aux gens, si vous avez quelconque médication dans votre demeure, alors vous retournez chez vous, vous lancez tout cela dans la toilette et même vous vous excusez auprès de la toilette. Alors ça, c'était son opinion. Et oui, je crois quand même qu'il faut reconnaître que certaines médications à cette époque-là étaient un peu barbares. Et pour être honnête avec vous, encore aujourd'hui, il y a certaines médications qui sont tout aussi néfastes. Alors, les radiations, la chimiothérapie, vous savez, c'est assez cruel. Alors, peut-être qu'actuellement, c'est la meilleure chose que nous avons trouvée, mais cela détruit aussi beaucoup d'autres aspects du corps humain. Peut-être que certaines personnes, évidemment, vont survivre à cela, mais ce n'est pas la manière de Dieu d'agir. Alors, s'il vous plaît, au moins, ayez l'honnêteté de dire que ces méthodes ne sont pas la main de Dieu pour guérir les gens. Pourquoi Dieu, soudainement, cesserait d'utiliser ce qui est parfait, comme il le faisait en Jésus, pour remplacer cela par un autre système qui est imparfait? Et lorsque nous allons étudier plus en profondeur la guérison qui est contenue dans l'expiation, nous allons voir le passage où Moïse, dans le désert, a placé un serpent d'airain sur un poteau. Alors, vous vous souvenez du récit, le peuple avait péché, il y avait des serpents dangereux qui étaient venus, qui les avaient mordus. Alors, ils sont allés vers Moïse pour avoir de l'aide, Moïse a prié. Et Dieu a dit à Moïse, alors oui, tu vas faire un serpent d'airain, tu vas le placer sur un poteau, sur une perche, et tous les malades qui vont regarder cette perche-là seront guéris. Et les gens venaient, et toute personne qui regardait ce serpent-là en airain était guérie. Et la signification de cela est que Jésus est devenu péché pour nous. Alors le serpent représente le péché, Jésus est devenu péché, il a lui-même pris la malédiction sur sa propre vie pour toi. Il est étonnant de remarquer que la profession médicale a utilisé ce même symbole, mais avec des variations. Et vous remarquerez d'emblée que dans l'histoire de Moïse, il y a un seul serpent, tandis que l'emblème de la médecine, il y a 2 serpents. Et le seul autre endroit dans la Bible où nous trouvons 2 serpents, c'est dans la cour de Pharaon. C'est lorsque les magiciens du Pharaon ont lancé leurs baguettes par terre et se sont transformés en serpents. Et j'aimerais ajouter ceci, environ 40% des gens pour qui je prie ont un problème de santé qui est directement relié avec des erreurs médicales. Je ne veux pas dire par là que ces erreurs ont été faites volontairement, mais ce sont des erreurs que les médecins ont commises. D'ailleurs, si vous prenez les statistiques à cet effet, vous allez comprendre que si vous allez chez les médecins, alors vous êtes mieux d'avoir la foi. Et les statistiques disent qu'il y a plus de gens qui meurent actuellement d'erreurs médicales que de gens qui sont morts dans la guerre du Vietnam qui a duré 12 ans. Plusieurs de ces erreurs sont de mauvais diagnostics. Alors, vous pouvez par vous-même aller vérifier les statistiques et cela va vous démontrer jusqu'où cela peut être dangereux. Alors, Dr. Lake disait que malheureusement, souvent, les gens venaient à Dieu comme si Dieu était la dernière ressource. Bref, ces personnes avaient essayé auparavant tout ce qui était humainement possible pour leur guérison, et en dernier, là, on va se tourner vers Dieu. Et honnêtement, si j'étais Dieu, que les gens viennent à moi avec cette attitude, je leur répondrais peut-être, alors, vous êtes allés partout, vous avez été consulté partout avant de venir vers moi, donc allez donc retourner vers ces autres gens. Oui, peut-être retourner vers les médecins si vous les considérez comme vos ressources primaires. Et je dirais que pour les chrétiens, Dieu, au contraire, devrait être notre ressource première. Hein, comme je l'ai déjà dit, je ne vous dis pas de ne pas aller chez le médecin. Si réellement vous avez besoin d'aide, alors allez chercher l'aide. Il est mieux que vous viviez pour être capable de vous battre encore le jour suivant. Mais au fur et à mesure, apprenez et grandissez dans la foi. Apprenez comment vivre la guérison. Est-ce que je suis clair avec vous? J'essaie de vous aider, là, et non pas de vous placer dans une boîte. Je ne veux pas que vous vous sentiez dans le péché parce que vous êtes allé chez le médecin, mais d'autre part, je veux que vous puissiez grandir pour enfin bénéficier de quelque chose qui est mieux que les médecins. Si j'avais vraiment besoin d'aller chez le médecin, alors j'irais chez le médecin. Mais j'ai découvert une meilleure façon. N'est-ce pas simple? J'ajouterais que l'une des raisons pour lesquelles le Dr. Lake était tellement contre les médecins est que lui-même avait étudié pour devenir médecin. Et il a même cité des médecins très, très proéminents à son époque. Et l'un de ces médecins, je crois qu'il était je crois qu'il était le médecin de la reine Élisabeth II. Je me souviens plus exactement laquelle reine c'était. Mais son médecin personnel a dit ceci. Toute la médecine est basée sur l'expérimentation et s'améliore par le meurtre. C'est ce que ce médecin a dit. Alors, évidemment, la pensée est que la médecine se constitue d'expériences dont les patients sont l'objet. Et lorsque le patient décède, alors là, on va modifier les données de notre expérience. Je le répète à nouveau, si c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, allez-y. Oui, Dieu peut à la limite diriger la main d'un médecin, mais n'allez pas dire que la médecine est la manière que Dieu choisit pour guérir les malades. J'ai déjà partagé tout ce que je vous dis là dans un groupe à New York, et une dame qui était là était l'épouse d'un chirurgien, et elle m'a dit après la réunion, alors mon mari est chrétien, nous sommes des chrétiens, et mon mari prie avant d'opérer les gens. Je lui ai répondu, bon, c'est bien. Lorsque j'étais instructeur au niveau des arts martiaux, j'ai même baptisé 3 de mes étudiants. Alors, j'en ai baptisé 2 dans un lac et l'autre dans une piscine d'un motel. Alors, je les ai conduits au Christ, même en tant que professeur d'arts martiaux. Est-ce que cela va justifier la profession que j'avais à cette époque? Et même à cette époque, ma vie n'était pas vraiment un exemple. Et le vrai miracle, c'est qu'ils sont devenus chrétiens malgré le mauvais exemple que je donnais dans ma vie. Et c'est malheureux des fois d'entendre les gens dire « Ah, moi, je suis un banquier chrétien, je suis un vendeur d'auto chrétien » et toutes ces choses. Il n'y a rien de cela qui est chrétien. Les compagnies ne sont pas les compagnies chrétiennes. Ce sont les gens qui peuvent être chrétiens. Et si le lieu où vous travaillez viole les principes du christianisme et que vous demeurez là, vous n'êtes pas un chrétien. C'est simple. Alors, des gens vont dire « Oui, mais je dois continuer ce travail-là parce qu'autrement, je ne pourrais pas payer mes factures et je vais perdre mon emploi. » Oui, alors tu as besoin de perdre cet emploi. Et tu dois aller dans un lieu où Dieu va t'utiliser dans sa justice. Et qui sait, peut-être tu deviendras un missionnaire. Oui, mais je vais perdre ce travail qui me donne beaucoup d'argent. Très bien, peut-être que tu as trop d'argent maintenant. Ah, peut-être que c'est toi qui es devenu trop paresseux et trop confortable. Alors, il y a des gens qui ont besoin d'être ébranlés un peu, afin qu'ils découvrent ce qui est réel, parce que tout ce qu'il y a dans ce monde va tomber un jour. Et lorsque tout va s'effondrer, les seules choses qui vont demeurer, c'est ce que Dieu a lui-même bâti. Alors, je vais arrêter de prêcher un peu et je vais retourner à l'enseignement. Alors, il y a d'autres questions et je vais vous les lire. Devriez-vous marcher sur votre pied qui est cassé et affirmer qu'il est guéri? Premièrement, je l'ai fait moi-même. Alors, la confusion à cet égard-là, c'est que beaucoup de gens vont proclamer différentes choses avec une pensée de confession positive. Et ce que je vais dire à ces gens, c'est si vous ne croyez pas ce que vous dites, vous mentez. Et si tu crois ce que tu dis, tu ne mens pas. Vous allez me dire, oui, mais ton pied est cassé et toi, tu dis qu'il est guéri. Mais nous lisons aussi dans la Bible que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je ne dis pas qu'il faut confesser cela pour arriver à y croire, mais vous le confessez si vous y croyez. Et de quelle manière nous allons affirmer notre foi, c'est en la verbalisant. Si jamais vous brisez votre pied ou un autre membre, alors là, ce n'est pas le temps pour apprendre ces principes-là. Vous devez auparavant avoir acquis cette foi pour la guérison, de manière à ce que lorsque vous allez confesser, il est guéri, vous croyez, vous avez la foi pour cette guérison. Et je crois que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus, peu importe ce que les évidences vont me dire. J'aimerais vous donner ici une image. Nous avons construit d'énormes machines qui ont le poids de plusieurs autos, même de plusieurs trains. Et ces appareils sont capables de s'envoler. Nous appelons ça des avions. Ils sont plus lourds que l'air, ils ne devraient pas voler, pourtant nous les voyons dans le ciel. Par exemple, si je pouvais prendre l'un de ces avions et le pousser au bas d'une falaise, que se produirait-il? Alors, tôt ou tard, il va s'effondrer. Pourquoi? À cause de la loi de la gravité. Est-ce que la gravité est un fait? Bien sûr. Alors, la gravité est une loi. Mais il y a aussi une loi dans la Bible que nous pourrions appeler la loi de la foi. Alors, la foi est une loi. Et une loi est quelque chose que si elle est violée, il y aura des conséquences. Nous connaissons la loi de la gravité, mais à cause de l'intelligence humaine, nous avons maintenant une autre loi que nous pouvons appeler la loi de la thermodynamique. Ou, d'une manière plus spécifique, nous pourrions dire la loi de l'élévation. Par exemple, lorsqu'un avion a pris son envol et qu'il a atteint une certaine vitesse, là, près des ailes, se produit un certain mouvement qui va élever l'avion. Et souvenez-vous que ce que nous appelons cette loi d'élévation est un fait, comme la loi de la gravité. Lorsqu'un avion prend son envol, est-ce que la loi de la gravité cesse d'exister? Non, elle est toujours là. Alors comment l'avion peut-il s'élever? Parce qu'il y a, à ce moment-là, une plus grande loi ou une loi plus puissante qui va superposer la première. Alors souvenez-vous que tout cela est un fait. Maintenant, nous avons la loi de la foi qui est clairement là, précisée dans la Bible, et nous savons que cette loi va outrepasser la loi des faits. Est-ce que mon pied est cassé? Oui, c'est un fait. Donc, comme c'est le cas, pour que la loi de l'élévation puisse superposer la loi de la gravité et que cela, évidemment, va prendre un certain temps jusqu'à ce que l'avion ait atteint une certaine vitesse. Et d'ailleurs, pour le cas d'un avion, plus le moteur est puissant, plus les ailes sont grandes et le moins de temps il faudra pour que l'avion s'envole. Par contre, si à un quelconque moment de son parcours, l'avion ralentit sa course suffisamment, alors à ce moment-là, la loi de la gravité, qui était toujours présente, va reprendre sa force. Nous savons que la loi de la foi est supérieure à la loi des faits. Et, comme c'est le cas pour l'avion, parfois la loi de la foi va prendre un certain temps avant de pouvoir superposer la loi des faits. À ce moment-là, vous n'allez pas tout de suite voir les résultats, mais cela ne veut pas dire que rien ne se passe. C'est que, petit à petit, vous prenez de la vitesse. Et lorsque vous aurez atteint une vitesse assez grande, alors là, l'autre loi va intervenir. Et c'est ainsi que la loi de la foi va outrepasser la loi des faits. Lorsque cela se produit, généralement, la guérison prend place. Il est même possible que vous ayez pris votre envol, que tout aille bien, et que si vous êtes entouré de gens qui sont des personnes négatives, que vous soyez influencé et que petit à petit, la loi des faits puisse reprendre sa force, jusqu'à ce que vous vous entouriez de gens qui vont vous encourager dans la foi pour vous fortifier. Alors souvent, cela est un processus. On est un peu comme dans les montagnes russes. Lorsque nous sommes en haut, tout va bien, la foi est forte. Lorsque nous sommes en bas, alors là, nous sommes découragés. Et c'est pour cela qu'il est important de bien choisir nos fréquentations. C'était l'un des 7 éléments qui était, selon le Dr. Lake, essentiel pour acquérir de la puissance spirituelle. Tenez-vous avec des chrétiens qui pensent comme vous. Il est préférable de marcher en solitaire plutôt que de marcher avec des gens qui sont continuellement en désaccord avec vous. Alors, cela ne signifie pas que les gens qui sont avec vous vont être toujours en parfait accord sur tous les points, mais vous devez discerner entre qu'est-ce qui est vital et qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, au niveau des sujets de la prière, du jeûne, évidemment, je ne suis pas contre cela, je suis pour cela. Et lorsque j'ai commencé mon parcours, on me disait, si tu pries suffisamment, si tu jeûnes suffisamment, alors là, tu auras toujours ta réponse. Mais je ne pouvais jamais trouver personne qui allait me dire jusqu'où je devais aller à ce niveau-là. Lorsque j'enseignais les arts martiaux, les techniques que j'enseignais étaient très simples, très à la base. C'était des techniques pour se défendre lors d'une bataille de rue. Alors, cette technique-là n'avait rien de spectaculaire, de fabuleux. Nous n'avions pas tous les vêtements et tous les appareils. Alors, la technique était simple. C'est tu te bats le moins longtemps possible, tu effectues le plus de dommages à l'ennemi et tu te retires le plus rapidement possible. Et tout cela était basé non pas sur la philosophie orientale, mais sur la physiologie. C'était tout de la logique et de la science. Et à cause de cette manière de penser qui est en moi, Dieu l'a utilisé pour que je puisse amener certains principes au niveau de la guérison, des principes qui sont dans la Bible. Et dans cette dynamique, j'ai appris à mettre de côté tout ce qui ne fonctionne pas. Parce que tout l'aspect spectaculaire, ce n'est pas cela qui va vous aider si votre enfant est en train de mourir. Alors, vous comprenez que le but de ma vie est de réussir à obtenir des résultats et non pas de la popularité. Et même si je sais que ce n'était pas nécessairement la volonté de Dieu que je sois relié à ces pratiques, j'ai quand même retiré quelque chose de bon à cet effet-là. Je sais que ce n'était pas la volonté de Dieu parce que Dieu m'a parlé souvent de sortir et d'arrêter ce que je faisais à cette époque. D'ailleurs, je me souviens très bien, j'étais dans mon automobile avec mon fils et j'étais sur la route pour aller justement ouvrir encore une autre école, une nouvelle école. Et là, j'étais sur la route et Dieu m'a parlé. Et il m'a dit, jusqu'à quand vas-tu continuer de poursuivre quelque chose qui a une finalité? Pourquoi plutôt ne viens-tu pas à moi qui suis éternel? Alors, j'ai réveillé mon fils qui dormait, j'en ai parlé un peu avec lui. Je ne savais pas trop quoi faire parce que c'était là aussi mon gagne-pain. Et un peu plus loin sur cette même route, Dieu m'a parlé à nouveau. Et là, il m'a dit, tu utilises tes mains pour apprendre aux gens comment tuer, et moi, je veux que tu utilises tes mains pour apprendre aux gens comment guérir. Alors là, d'emblée, je me suis garé sur le côté de la route. J'ai dit à mon fils, nous ne pouvons aller là-bas. Je suis retourné à la maison et finalement, j'ai fermé mes écoles. Et à ce moment-là, évidemment, personne ne m'appelait pour prêcher. Je n'avais rien devant moi. Et j'ai tout fermé ces écoles et je n'avais à ce moment-là aucun autre revenu. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Alors, j'ai trouvé un emploi dans une compagnie de fast-food parce que j'avais de l'expérience au niveau de la gestion. Et alors que je travaillais à ce lieu, un jour, quelqu'un m'appelle, c'était quelqu'un qui était auparavant mon étudiant, et il me dit, Curry, je viens d'ouvrir une école d'arts martiaux, j'ai tout l'équipement, c'est vraiment à la fine pointe, je veux que tu viennes travailler avec moi. Et je peux vous dire que le salaire était énorme. Et il ajoute en plus, si tu veux, tu peux utiliser l'école pour donner des leçons en privé, parce qu'à cette époque-là, je donnais des leçons privées et on me payait à ce moment-là près de 200-250 $ de l'heure pour ces leçons-là. Et vous savez, quand vous êtes là, vous n'avez plus le sou, de telles offres peuvent être très alléchantes. Alors, j'ai commencé à essayer de négocier avec Dieu. J'ai dit, tu sais, je ne vais pas aller me battre. Je vais pas aller battre personne. C'est seulement une habilité que j'ai enseignée. Alors, est-ce que tu me permets? C'est incroyable parfois les choses que vous essayez de rationaliser, n'est-ce pas? Et cet homme-là, qui voulait m'embaucher, par contre, exigeait que je signe un contrat de 5 ans, pour une période de 5 ans. Et je me rendais à mon travail en marchant un jour et j'ai vraiment dit à Dieu, « Dieu, dis-moi qu'est-ce que tu attends de moi, parce que si je signe ce contrat, pour 5 ans, je ne peux pas te servir d'aucune autre façon. » Et là, sur le champ, Dieu m'a parlé à nouveau, peut-être de la manière la plus claire dont j'ai jamais entendu la voix de Dieu. Et Dieu m'a dit, « Ce n'est pas ce que je veux que tu fasses, c'est ce que je veux que tu sois. » Et il a ajouté, « Je veux que tu sois mon fils et je veux que tu sois heureux. » Vous savez, moi j'avais été élevé dans une église pentecôtiste et on ne m'a jamais vraiment dit que Dieu était intéressé à savoir si j'étais heureux ou non. Et il a ajouté, « En tant que mon fils, dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureux? » Je lui ai simplement répondu, « Honnêtement, Seigneur, ce que j'aime, c'est de prêcher ta parole, de chasser les démons, de voir les malades guéris. C'est ça la vraie vie. Et il m'a répondu, maintenant, tu sais ce que je veux que tu fasses. Suite à cela, j'ai appelé mon ami, qui était mon ancien étudiant, et je lui ai dit, je ne peux pas aller travailler pour toi, je ne vais pas aller travailler pour toi, et si jamais tu m'appelles à nouveau pour me proposer cet emploi, laisse-moi te dire que je ne t'ai pas enseigné tout ce que je connais concernant les arts martiaux. Et je te promets que je vais aller te battre. Je voulais simplement qu'il sache que je ne voulais plus être tenté. Alors, je suis allé à l'emploi que j'avais à cette époque-là. J'ai dit à mes patrons, j'aime bien ce que vous faites. Il n'y avait rien de mal à cet endroit-là. Mais je leur ai dit, je ne fais pas actuellement ce que je dois faire, ce que je dois faire de ma vie. Je leur ai dit, je vous donne alors ma démission. Et puis, je suis retourné chez moi et j'ai dit à mon épouse, tu sais, chérie, je suis supposé de prêcher l'Évangile. Et à cette époque-là, personne n'était au courant de cela. Personne m'avait appelé pour prêcher ou quoi que ce soit. Et alors, elle aussi avait un petit emploi à ce moment-là. Et je lui ai dit, tu sais, je viens de laisser mon emploi. Donc, je vais demander à Dieu comment est-ce que tout cela va procéder. Et elle m'a répondu, tu as quitté ton emploi, mais tu vas pas rester dans la maison à rien faire. Alors, lorsque je me lève le matin, tu vas te lever avec moi et tu vas passer la journée à prier, à jeûner et à faire tout ce que tu dois faire. Alors, nous nous levions ensemble, elle allait travailler, et moi je commençais à prier le matin, je plaçais un CD de louanges, et je pouvais commencer à prier en marchant dans la maison pendant 2-3 heures à chaque matin. Alors je priais en langue, j'adorais Dieu, et je lui disais, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Peu de temps après, quelqu'un a téléphoné chez moi, et il m'a dit, oui, j'ai entendu parler de toi, parce que à cette époque-là, nous avions déjà commencé à prier pour les gens, mais c'était chez nous, c'était en privé, et les gens étaient guéris. Alors, la personne au téléphone m'a dit, tu sais, nous avons un fils qui est malade, qui est paralysé, et si je t'envoie un billet d'avion pour venir jusqu'en Caroline du Nord, est-ce que tu accepterais de venir chez nous prier pour mon fils? J'ai répondu, tu sais, je peux prier ici où je suis actuellement. Mais ils ont insisté pour que je puisse me rendre chez eux en avion. Alors, j'ai dit, c'est bien. Alors, j'ai dit, est-ce que ma fille peut venir avec moi? Ils ont accepté, donc nous sommes partis tous les deux. Et pendant toute la semaine qui a suivi, nous n'étions pas dans une église, nous étions dans une maison, et la maison était remplie à craquer. Alors, différents gens sont venus, ils savaient que je venais pour prier pour l'enfant là-bas, et j'ai commencé même à enseigner sur la guérison. J'ai commencé à enseigner à 7 heures du matin jusqu'à midi, et à l'après-midi, je me rendais à une autre maison, parce qu'en fait, il y avait 3 maisons sur cette même rue, et chaque maison était remplie. Alors, tout l'après-midi, j'enseignais, je demeurais dans cette deuxième maison jusqu'à l'heure du souper, mangeais une petite bouchée, et vers 7 heures le soir, j'allais dans la troisième maison pour enseigner jusqu'à minuit. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant cette semaine-là, j'ai prié pour au moins 200 personnes. 40 de ces personnes-là avaient un cancer en phase terminale. Et à la fin de cette semaine-là, les 40 personnes qui avaient un cancer en phase terminale ont été guéries et déclarées guéries par les médecins. Et concernant la totalité des 200 personnes pour qui j'ai prié pour une guérison, tous ont été guéris, sinon deux personnes que je n'ai pas pu retracer par la suite pour vérifier leur guérison. Et la raison que je vous amène tout cela, je vais revenir auparavant un peu. Lorsque j'étais dans les arts martiaux, j'enseignais aussi, croyez-le ou non, au niveau de la nutrition. J'avais été formé au niveau des suppléments alimentaires. J'ai même conseillé des personnes qui étaient dans les troupes de ballet nationales, etc. Et même davantage, pour acquérir certains degrés au niveau des arts martiaux. Alors, j'avais même étudié au niveau de la médecine chinoise. Et le point que je veux apporter ici, c'est que j'ai mis toutes ces choses de côté pour pouvoir enseigner ce que j'enseigne actuellement. Parce que cet enseignement est supérieur à tout ce que j'ai appris dans le passé. La raison que je vous dis cela, c'est au niveau des compléments alimentaires. Donc, si vous voulez savoir l'effet qu'aura un complément alimentaire dans votre nutrition, alors vous n'allez pas en prendre 3 ou 4 en même temps. Vous allez en prendre un à la fois pour pouvoir analyser l'effet qu'il a sur votre organisme. Même au-delà, vous pouvez combiner certains suppléments alimentaires pour vérifier s'il y a une synergie, s'ils travaillent bien ensemble ou encore si l'effet est contraire. Et c'est exactement quelle a été ma manière de procéder au niveau de la prière et du jeûne. Je voulais vraiment découvrir ce qu'était la vérité. Et je me suis dit, si vraiment la solution, c'est le jeûne, alors il faut jeûner. Si c'est une question de prière, donc il faut prier davantage. Évidemment, tout cela dans l'optique de découvrir de quelle façon la puissance de Dieu se manifeste. Ce n'est pas à dire qu'il faut juger si la prière et le jeûne sont bons ou mauvais. Mais est-ce que la prière et le jeûne sont réellement ce qui va produire du résultat? Parce que tous les gens que je connaissais à cette époque étaient des gens qui priaient, qui jeûnaient, et pourtant, il n'y avait pas de résultat. Alors, au départ, je me suis dit, avant que j'ajoute à ma recherche de longues périodes de prière ou de jeûne, je veux découvrir ce que la foi à elle seule va produire en moi. J'ai commencé tout simplement à prier pour les gens. Je ne priais pas, je ne faisais pas de prière extensive, je ne jeûnais pas. J'avais ma vie normale de prière, on peut dire, mais je n'en allais pas au-delà de cela. Et je me souviens d'un cas en particulier, il y avait une dame qui devait venir chez moi et elle avait besoin, c'était un cas grave au niveau de la délivrance, elle avait besoin de délivrance. Et mon épouse avait parlé avec elle et avec les membres de sa famille et elle m'a dit comme ça, cette femme a vraiment des problèmes de démons et c'est à un niveau très grave. Et mon épouse m'a dit, est-ce que tu vas pas prendre un temps dans le jeûne et la prière pour te préparer? Alors j'ai répondu, je le fais de manière volontaire. Parce que je choisis de ne pas jeûner ni prier pour démontrer que la prière et le jeûne ne sont pas comme une formule magique qui va être utilisée pour la délivrance. C'est la foi en Jésus qui va accomplir cela. Le jeûne et la prière peuvent vous aider à être en meilleure forme spirituelle pour mieux entendre Dieu et être disponible. Mais ce n'est pas cela qui va faire de vous un être spirituel, ni vous apporter la puissance de Dieu. Alors la femme est venue chez nous, elle a été libérée, et cela prouvait mon point de vue. Comme je l'ai dit, le jeûne et la prière vont vous aider à faire mourir votre chair. Mais la prière et le jeûne n'ont pas de puissance en elles-mêmes et ne vont pas non plus vous communiquer de puissance. Elles vont simplement vous rendre plus sensible au domaine de l'esprit. C'est la raison pour laquelle les sorcières même prient et jeûnent. Alors, si vous voulez regarder dans vos Bibles avec moi, aux Actes des Apôtres et au chapitre 3, je désire prouver ce que je suis en train de vous dire là. Et pendant que vous cherchez la page dans votre Bible, l'autre question, j'aimerais vous la lire. Comment pouvez-vous aider quelqu'un qui est tourmenté, mais qui vous interdit de prier pour lui? Je vous dirais, allez un peu plus loin, allez dans un coin et priez pour la personne là où vous êtes. Tu n'as pas à être présent près de la personne. Parce qu'il est impossible de savoir si c'est vraiment cette personne qui refuse la prière. Ça peut être un démon menteur à travers elle. Souvent, il est plus facile de prier pour les gens à distance, tout comme il est plus facile d'aimer quelqu'un à distance. N'est-ce pas? Comme j'ai dit un peu plus tôt, tout le monde était émerveillé par John G. Lake ou Smith Wigglesworth. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils sont morts. C'est pour ça que les gens les aiment aujourd'hui. Mais lorsque Wigglesworth était vivant, vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'aimaient. C'était un homme très sérieux, très rude. Même lorsque j'étais avec le Dr. Summerall, j'ai rencontré des gens qui ne l'aimaient pas beaucoup. Pourtant, cet homme-là était plein d'amour pour les gens. Mais je peux vous dire, d'ailleurs, j'ai un enregistrement chez moi où ce qu'il disait choquait beaucoup les gens. Et ce n'était pas seulement à cause de l'enseignement qu'il donnait. Alors après le sermon, il a fait un appel pour la prière, mais c'est un appel spécifique. Il a dit, alors venez avancer ces gens-là qui vont répondre à l'appel. Et il a dit au placier par la suite, alors maintenant je ne veux plus que personne d'autre avance. Pourtant, une femme a réussi à se faufiler et s'est placée dans la ligne de prière. Et il a prié pour tous les autres. Lorsqu'il est arrivé devant cette dame, il a dit, d'où tu viens toi? Alors évidemment, la dame était timide et un peu très mal à l'aise même. Et il lui a dit comme ça, va te rasseoir, je ne vais pas prier pour toi. Alors, la dame était vraiment très offusquée. Et d'ailleurs, toute l'ambiance dans la pièce était très, très intense. Et tout à coup, il n'est plus ce gentil monsieur qui prie pour les gens. Il devient ce vieillard crapuleux. Alors, tous les gens de l'assistance le regardaient. Et il a continué en disant à la femme, « Je te l'ai dit, va t'asseoir. Je ne prie pas pour toi. » Et il s'est tourné vers les placiers et il leur a dit, « Il me semblait que je vous avais dit de ne pas laisser venir personne d'autre en avant. » Et là, il était choqué près des placiers. Suite à cela, il est retourné prêcher et il a dit comme ça à l'assistance, « Il y a des gens parmi vous qui croient que je suis un homme rude. Mais laissez-moi vous dire que si cette dame n'était pas suffisamment décidée pour venir au temps où je l'ai indiqué, alors c'était inutile de prier pour elle, elle n'aurait pas été guérie. Et d'ailleurs, lorsque je vais vous dire à l'avenir de venir pour la prière, vous devriez venir prier en courant. Et c'est comme ça qu'il était, cet homme. Même peut-être que ce type de caractère manque un peu dans l'Église aujourd'hui. Bref, où est-ce qu'il avait appris à agir comme cela? De Wigglesworth. Parce qu'il m'avait dit qu'à chaque fois qu'il est allé visiter Wigglesworth, il n'y avait personne dans la maison. Et nous aurions pensé que là réside un grand homme de Dieu, il est dans sa maison et tout le monde sait où il habite. Alors nous aurions pu penser qu'il y aurait une file d'attente et des jeunes hommes qui sont là pour essayer d'avoir une entrevue avec ce géant de la foi. Et Samuel m'a dit qu'à toutes les fois où il est allé visiter Wigglesworth, il n'y avait personne là et qu'il était le seul visiteur. Et il est allé le voir pendant plusieurs années. Alors vous vous dites pourquoi? Tout simplement parce que il est fort probable que vous n'auriez pas aimé le caractère de cet homme. C'est un homme rude. Alors, il m'a même raconté, Summerall m'a raconté que la première fois qu'il est allé visiter Wigglesworth, alors il était là, bien habillé, son chapeau melon, son parapluie et un journal sous son bras. Et il a dit comme ça, sèchement, « Toi, tu peux entrer dans ma maison, mais tu vas laisser ce déchet-là dehors en parlant du journal. » D'autre part, John G. Lake, lui, faisait en sorte que le journal soit livré chez eux à chaque jour. Et le dimanche matin, avant d'aller à l'église, alors tous ses enfants sautaient sur le lit et lui allait lire pour eux les bandes dessinées. Alors, vous avez évidemment des gens qui vont dire « Ah oui, moi, je suis comme Wigglesworth. Je ne veux pas avoir de journaux dans ma maison. » Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas, vous serez comme Wigglesworth lorsque vous aurez ressuscité 21 personnes mortes, comme lui l'a fait. Il y a bien des gens qui aimeraient avoir l'onction de Wigglesworth, mais sans avoir à vivre la vie qu'il a vécue. Alors, est-ce que Dieu lui a déjà dit de ne pas lire le journal? Non, c'est lui-même qui avait décidé d'agir de cette manière. Parce que si vraiment cela était venu de Dieu, alors Dieu aurait dit la même chose à Lake, et Lake n'aurait eu aucune puissance tant et aussi longtemps qu'il avait les journaux dans sa maison. Alors, dans un sens positif, on va dire que ce que vous avez choisi de croire agit un peu comme un commutateur qui va laisser traverser l'énergie de Dieu à travers vous. Alors, il s'agit d'un disjoncteur, et si votre disjoncteur est de petite taille, alors oui, vous allez expérimenter la puissance de Dieu pour guérir des maux de tête et des petites maladies. Par contre, si votre disjoncteur est plus large et que vos croyances sont plus larges, alors Dieu peut agir de manière plus puissante à travers vous. Alors, ce que je suggère, c'est que vous puissiez retirer de votre pensée toutes ces limites, ces fausses doctrines qui font de Dieu celui qui ne veut pas guérir. J'ai déjà même entendu des gens qui disaient « Dieu ne peut pas te baptiser dans l'Esprit-Saint tant et aussi longtemps que tu ne vas pas retirer ces boucles d'oreilles que tu portes. » Je l'ai entendu. Et moi, je dois vous dire que j'ai même vu des prostituées maquillées, pleines de bijoux, la jupe courte. Alors là, ils sont touchés par Dieu, elles pleurent et tout le maquillage coule sur leur visage. Et là, elles se repentent de leur péché. Quelqu'un vient, place la main sur elles en disant « Reçois le Saint-Esprit » et blam, voilà, elles commencent à parler en langue. Alors, je ne suis pas en train de dire que ces femmes-là doivent rester comme elles étaient, mais c'est votre croyance de dire qu'elles ne peuvent pas recevoir de Dieu jusqu'à ce qu'elles aient changé. Pourtant, le Saint-Esprit est un don. Un don, c'est quelque chose qui nous est donné. Il y a seulement deux choses que vous pouvez faire avec un don, avec un cadeau. Soit l'accepter, soit le rejeter. Vous ne pouvez rien faire pour le mériter, en tout cas. Alors, nous pensons toujours, si je peux devenir plus spirituel, Dieu alors va me donner un don. Non, si vous devenez plus spirituel, ce sont des fruits que vous aurez. Parce que des fruits viennent avec la croissance. Un don est quelque chose qui nous est accordé. Laissez Dieu vous utiliser. Et cessez de placer toute forme de qualification pour vous rendre éligible à ce que Dieu veut faire. Mais laissez-moi vous dire qu'une fois que je serai au ciel, je préférerais de beaucoup que Dieu me dise « Hey curé, tu es allé beaucoup trop loin. Tu as guéri beaucoup de gens que je n'aurais pas choisi de guérir. » Je préférerais que Dieu me dise cela plutôt que de me dire « Curé, pourquoi est-ce que tu es allé près de ces gens-là et que tu n'as rien fait pour eux? Ne croyais-tu pas que mon amour était vers eux? Alors, qu'est-ce que tu avais dans la tête à ce moment-là qui a fait que tu es allé vers ces gens et tu n'as rien fait, tu n'as pas agi? » Mais nous avons cette mentalité de dire, « Oh, mais seulement quelques-uns seront sauvés et quelques-uns seront guéris. » Souvent, la raison, c'est que nous croyons que les gens ne le méritent pas. Bien entendu, personne ne mérite quoi que ce soit. Alors, à cette étape-ci, si vous n'avez pas encore trouvé le troisième chapitre du livre des Actes, aussi bien d'abandonner, ne cherchez plus. Je vous ai donné tout le temps nécessaire, n'est-ce pas? Alors, ce passage se situe tout de suite après la Pentecôte qui s'est produite au chapitre précédent. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ! » Alors, arrêtons ici un instant. Pauvre Pierre, malheureusement, il n'avait pas l'avantage d'avoir notre théologie moderne. Il aurait dû savoir mieux comment agir. Alors, pourquoi dire à cet homme « Regarde-moi, regarde à moi ». Non, ce n'est pas ce qu'il faut dire. Non, ne regarde pas à moi, regarde à Jésus. Ce n'est pas ce que nous disons. Pourtant, il semble que Pierre pensait différemment. Alors, pourquoi Pierre n'a pas senti le besoin de dire à l'homme « Regarde à Jésus » Parce que c'est nous qui ressentons continuellement la nécessité de nous dévaloriser. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Dieu ne peut nous utiliser. On continue à dire « Ah, je ne suis rien, je ne suis rien ». Et d'ailleurs, vous en faites la preuve, parce que vous ne faites rien. Vous devenez ce que vous dites être. Alors ici, dans ce verset, il y a deux possibilités. Soit que Pierre avait tort ou nous avons tort. Et honnêtement, si j'ai à choisir entre les résultats qu'il a obtenus et les vôtres, alors eh bien, je crois que je vais choisir Pierre. Je reprends la lecture. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Alors, dans nos propres mots, il a regardé l'homme et lui a dit « Écoute, je sais que tu veux de l'argent, je n'en ai pas du tout. » Il n'aurait pas pu dire la même chose quelques jours plus tard, parce que la multitude avait apporté de l'argent et de l'or aux pieds de Pierre. Et par la suite, ils l'ont distribué parmi la communauté. Bref, il a dit à l'homme, « Je n'en ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et encore, nous pourrions critiquer Pierre pour cet énoncé. Pourquoi n'a-t-il pas agi comme nous agirions aujourd'hui, et en disant, « Alors maintenant, allons-y, nous allons prier et voyons ce que Dieu va faire. » Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit à l'homme, « Ce que j'ai, je te le donne. » Ou encore, en regardant l'homme, il aurait pu dire, « tu es boiteux depuis ton enfance. C'est sûrement un lien maléfique de génération. Alors, dis-moi un peu ce que ta mère, ce que ton père ont fait. Quel péché ont-ils commis? » Voyez, il n'a rien fait tout cela. Il est allé droit au but. Il a dit à l'homme, « Ce que j'ai, je te le donne. » Point final. Il n'a même pas pris le temps de prier. Alors, c'est bien ce que j'ai lu, n'est-ce pas? « Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Il lui a dit premièrement, « Ce que j'ai, je te le donne. » Et au nom de Jésus. Puis, il ne s'est pas contenté de le dire. Il a pris la main du boiteux et il est écrit, « Il le fit lever. » Les jambes et les chevilles de l'homme étaient toujours paralysées. Il l'a levé par sa propre force d'homme, et tout de suite après, alors là, ses jambes ont reçu la force. Alors comment allons-nous appeler cela une guérison? Non, nous allons appeler cela l'accomplissement d'un miracle. Et malheureusement, la raison que nous ne voyons pas ce don se manifester dans l'Église, c'est qu'il n'y a personne qui a l'audace d'agir pour que ce miracle se produise. Tout le monde veut avoir le don de la foi. Tout le monde veut avoir le don de la guérison. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va le faire et nous allons demeurer derrière et regarder seulement. Pour qu'un tel miracle se produise, l'être humain doit participer. Alors, Pierre était en train de mettre sa foi en action et là, le Saint-Esprit est intervenu et l'homme a été guéri. La force n'est pas venue dans les jambes de l'homme jusqu'à ce que Pierre le saisisse et le lève. Si Pierre était demeuré là, debout, sans toucher le boiteux, rien ne se serait produit. Je continue à lire. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Voici le secret. Ce n'était ni à cause de longues heures de jeûne, ni à cause de longues heures de prière ou de sainteté, mais il s'agissait là de la puissance de Dieu que Pierre a utilisée librement. » Alors, nous continuons la lecture. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. » Alors, vous voyez, il pointe du doigt ces gens-là. De plus, vous vous souvenez de toute la controverse qui a été soulevée lors du film, la sortie du film de Mel Gibson, « La Passion du Christ ». Alors, évidemment, ce sont nos péchés à nous tous qui ont tué Jésus. Mais qu'est-ce qu'il est écrit là? Vous savez, Pilate était d'avis qu'on le relâche. Mais ce sont les Juifs qui ont voulu qu'il soit crucifié. C'est écrit. Et il ajoute, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. » Qu'est-ce qui a affermi cet homme? Le nom de Jésus. Ce n'était ni leur puissance, ni leur piété, c'était le nom de Jésus et leur foi dans le nom de Jésus. Laissez-moi vous poser cette question. Comment est-ce que vous devenez un chrétien? N'est-ce pas en plaçant votre foi dans le nom de Jésus? Alors combien d'entre vous êtes chrétiens? Alors je présume que vous avez foi dans le nom de Jésus, n'est-ce pas? Avez-vous maintenant vécu une assez bonne vie pour mériter que Dieu vous utilise? Avez-vous jeûné suffisamment? Avez-vous prié suffisamment? Est-ce que c'est votre propre puissance ou si c'est la puissance de Dieu qui est en nous? Et n'avez-vous pas tout ce que Pierre avait? Alors vous avez le même esprit, vous avez le même nom, le nom de Jésus. Avez-vous foi en ce nom-là? Alors si vous n'avez pas foi en ce nom-là, vous ne lui appartenez pas, n'est-ce pas? Et la différence entre Pierre et vous, c'est que lui a eu le courage de prendre la main du boiteux et de le lever. Et c'est ce que j'appelle le don d'opérer des miracles. Et j'ai d'ailleurs plusieurs témoignages concernant cela. J'aimerais vous parler avec franchise. Si vous pouviez vivre une assez bonne vie pour que Dieu vous utilise, alors à ce moment-là, Dieu devrait le faire et ce serait comme une récompense, comme un salaire. Et vous seriez dans l'obligation de vivre une vie juste pour que Dieu puisse vous donner sa puissance. Et lorsque vous croyez qu'en jeûnant, vous méritez d'être utilisé par Dieu, ou encore lorsque vous croyez que vous devez faire quoi que ce soit pour que Dieu vous utilise, à ce moment-là, vous avez décidé d'établir votre propre justice, plutôt que de vous appuyer sur la justice de Jésus seul. Et en agissant de cette manière, vous vous disqualifiez vous-même pour que Dieu vous utilise. Quand en réalité, la réponse est celle-ci, vous devez comprendre et réaliser que tout est par grâce. Vous guérissez les malades par grâce et vous devenez guéri par grâce. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alors toute gloire personnelle est exclue. Nous croyons en Christ, nous accomplissons ce que nous devons accomplir, Jésus reçoit la gloire. N'est-ce pas simple? Alors, avez-vous reçu quelque chose de ce que je vous ai apporté aujourd'hui? Alors, vous avez la foi en Jésus, vous avez le nom de Jésus, et tout ce qui vous manque, c'est de l'audace, n'est-ce pas? Et vous recevez l'audace lorsque vous êtes convaincu. Êtes-vous convaincu? Alors, que Dieu vous bénisse, et nous allons nous retrouver à la prochaine session.